À tous et à toutes, nous nous retrouvons après une certaine période d'absence de rencontres hein, pour raison de vacances diverses et variées. Donc j'espère que tout le monde a bien profité hein, de ces vacances, hein, n'est-ce pas, Nom ? Dans la joie et la reconnaissance. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle et que Dieu soit vraiment soit loué au travers de cela et que vous soyez richement bénis. Un ministère équilibré, oui, c'est vrai qu'il est important, il est nécessaire même, dans nos diverses activités, d'avoir un engagement qui soit équilibré. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » dit l'apôtre Paul. Et puis dans les versets que nous venons de lire, dans 1 Pierre, dans une autre version, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Hein, nous avons déjà partagé cette réflexion autour des dons spirituels, donc je ne vais pas revenir précisément là-dessus, mais chacun en tout cas a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Quelque chose, et la suite nous dit qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant. Donc le Seigneur nous a transmis, nous a communiqué une société de service, on va dire. Et nous sommes les gérants de cette société de service. Alors, là, il nous est donné l'exemple de celui qui parle. Ben, celui qui parle, ben, transmet les paroles de Dieu. Ben, cet après-midi, j'ai demandé, et je demande encore à Dieu à chaque instant que les paroles qui sortent de ma bouche, ce sont des paroles qui soient inspirées de Dieu pour nous nourrir, mais pour sa gloire. Et aussi, donc dans 1 Pierre, toujours, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Dieu nous donne aussi, nous équipe pour servir les autres. Il nous donne de la force. Parce que dans les tâches que nous avons que nous accomplissons dans l'Église, certaines sont plus dispensatrices d'énergie ou consommatrices d'énergie. Et bien là, le Seigneur nous dit que ce n'est pas de nos propres forces, mais qu'il nous donne ces forces. Agissez en toutes choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu. Nul ne se met en avant dans ce qu'il fait au service des autres, parce que c'est uniquement pour servir Dieu, pour la gloire de Dieu. Il n'y a aucune reconnaissance à rechercher dans ce que nous faisons. Donc voilà pourquoi j'aimerais cet après-midi peut-être vous aider, hein, si possible, aider chaque membre à prendre les responsabilités que Dieu a prévues pour chacun de vous. C'est l'objectif fixé. Que cette année, nous puissions tous remplir le ministère que le Seigneur nous a donné en gérance. Dans les différentes activités, que ce soit pour organiser les réunions, même les réunions de jeunes, pour la musique, pour le vidéoprojecteur, pour les messages qui sont diffusés, tout ça, chacun fait quelque chose, agit pour la gloire de Dieu. Cette foi qui nous anime, elle n'est pas synonyme de passivité, mais d'action. Et Jésus même ajoute, ah, le zèle de ta maison me dévore. Hein, le zèle, cette envie, cet empressement à servir Dieu, à servir la maison du Seigneur. Alors prenons comme exemple Paul. Quand on lit un petit peu son histoire, bien sûr, il y a énormément de choses à relever, mais notamment celle-ci par rapport à notre sujet qui nous intéresse cet après-midi. Paul est un homme qui ne se soucie pas de se faire des amis, qui n'espère ni ne désire les biens de ce monde, qui n'a pas l'appréhension de souffrir la perte de quelque chose de terrestre, qui ne tremble pas pour sa vie, qui ne craint pas la mort. C'est un homme qui ne représente ni un rang social, ni un pays, ni une condition. Il est un homme d'une seule idée, l'évangile de Christ. L'homme d'un seul objectif, la gloire de Dieu. Un fou et acceptant d'être tenu comme tel pour Christ. Il a subi des naufrages, il a été... On a voulu le lapider, hein, il a été battu, emprisonné, et j'en passe. Alors qu'on l'appelle enthousiaste, certains disent ah, c'est un exalté, Paul. Peut-être un fanatique, pour certains. Un discoureur où tout ce que le monde peut imaginer pour le qualifier, il n'en reste pas moins impossible à décrire. Tellement il y a de richesse autour de son action. Il faut qu'il parle même, sinon, Paul dit, sinon il meurt s'il ne parle pas. Et même si, pour cela, il doit perdre sa vie. Il n'a pas de repos, on a l'impression qu'il est toujours en mouvement. Par la mer, par la terre, il escalade des montagnes, il traverse les déserts, il crie à pleine voix, il ne ménage personne, ni ne se laisse influencer. Un petit peu l'image de Jésus, hein. Souvenez-vous quand Jésus arrive dans le temple, quand il a renversé les tables des marchands. Bon, on peut un peu imaginer la scène. Donc quelqu'un qui est engagé dans le ministère de Dieu, ben, c'est quelqu'un qui est zélé pour ce qu'il fait. Si on n'est pas zélé pour notre travail, on n'a pas envie de l'accomplir d'une manière à chercher la perfection. Accomplir son ministère, c'est donc pas un état de supériorité. Il n'y a pas, bon, le rôle le plus important, c'est un tel. C'est celui-là, le rôle, et toi, ton nom, il est à quelle ligne ? Non. Notre nom, il est tout en bas de la ligne. C'est Dieu qui a toutes les lignes précédentes. Et nous sommes tous sur la même ligne parce que nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Et nul ne peut dire « Je revendique mon ministère qui est supérieur au tien » ou « Mon ministère a plus de valeur que le tien ». Malheur, malheur à toi, malheur à celui qui pense là. Donc, accomplir son ministère, ou accomplir, on va dire, mettre en œuvre son don, hein, ce n'est pas un passe-droit. Moi, je fais ça, donc je revendique aussi le fait de passer avant. Ou ce n'est pas une spiritualité égoïste. En disant, oui, mais moi, j'ai reçu ce don du Seigneur, donc ça a quand même de la valeur. Malheureux, tu ne sais pas si demain le Seigneur ne va pas retirer le don qu'il t'a mis en gérance. Parce que dans une société qui est en gérance, elle peut très bien fermer le lendemain. Ce n'est pas non plus une surexcitation fébrile et incontrôlée, où on court de partout, il faut qu'on fasse tout. On se met peut-être sans le savoir l'étiquette de l'indispensable. Il faut que tout passe par moi, parce que moi je sais faire. Non mais pourquoi tu ne partages pas? Pourquoi tu ne laisses pas aussi faire les autres? C'est pas non plus un délire mystique, hein. Je sais pas, j'ai pas l'impression de, voilà, que mes pieds ne touchent plus le sol. Mais accomplir son ministère et gérer ce don de Dieu, c'est bien plus, c'est déjà une joie de servir dans la simplicité. C'est une consécration. Et le Seigneur nous donne la force d'accomplir ce qu'il a prévu pour nous. C'est un désir profond et saint de parler de Dieu, de partager sa foi, de faire grandir l'autre. C'est une démonstration visible de sa foi, et parfois même il y a des démonstrations invisibles de notre foi. Il y a des personnes qui ont le don de la prière, qui ont le don de l'intercession, qui sont capables de rester à prier seules dans leur coin, pas sur la place publique, ni debout dans l'église pendant X temps, non? Elles intercèdent dans le secret, je dirais, presque. C'est aussi un enthousiasme dans le service. Ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons Je l'espère le faire avec joie. Et puis le désir vif de montrer l'action de Dieu et non la sienne propre. Parce que sinon la gloire ne revient pas à Dieu, la gloire me revient. Donc qu'est-ce qu'un ministère déséquilibré ? Commençons par cela. Ben, tant que je considère ma foi comme une succession de devoirs, par exemple, d'obligations à accomplir. Ah, il faut aller à l'église tous les dimanches, c'est vrai, sinon c'est pas bien. Hein ? Ah, il faut que je lise ma Bible quand même. Hein. Ah, puis il faut que je prie aussi un petit peu. Donc c'est un ministère chrétien qui est déséquilibré. On n'a pas compris ce que c'est que la foi, en réalité. Dans Galates chapitre 4, verset 17, « Le zèle qu'ils ont pour vous, n'est pas pur. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Alors, détourne le zèle pour une autre utilité. « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non, pas seulement quand je suis avec vous. » Ah oui, il y a les spécialistes démonstratifs. C'est-à-dire lorsqu'il y a un événement ou quelque chose de spécial, vous ne voyez qu'eux. D'un seul coup, ils sont partout, fébriles, surexcités, et quand il n'y a pas d'événement, on n'entend plus parler d'eux. Notre ministère doit s'accomplir dans la soumission à Dieu, dans le respect de sa volonté, dans le respect des autres, sans védétariat, hein, ni prétention aucune de vouloir s'imposer devant les autres, sans tromperie, sans manipulation. Parce que gare à l'excès de zèle, on a dit que c'était bien d'être zélé pour remplir son ministère, mais pas en excès. Vous savez, les excès, de toute façon, on sait très bien où ça va. Un excès de vitesse. On est autorisé à rouler à une certaine vitesse, on va dire 90 km/h, mais quand on le dépasse, on passe dans l'excès avec tout ce que ça engendre. On enfreint la loi, on met sa vie en péril, on met les autres en péril, voilà. Les excès. Et la conséquence, c'est qu'au lieu de construire quelque chose, ben, on va détruire quelque chose. Celui qui tombe dans l'excès pense marcher dans la vérité, mais il se trompe lui-même, déjà, mais surtout, et le pire, c'est qu'il trompe les autres. Et il peut être ce qu'on appelle une pierre d'achoppement pour les autres. Il peut volontairement ou involontairement, s'il ne s'en rend pas compte, faire tomber les autres. Parce qu'il étouffe les autres. Il peut aussi étouffer l'autre. Empêcher aux autres de s'exprimer, de gérer leur ministère. Dans Romains chapitre 12, verset 11, ayez du zèle et non de la paresse. Voilà. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Pour être zélé, il faut aimer le Seigneur. Nous avons, je pense, tous et toutes, peut-être un travail, ou ceux qui sont encore dans les études, c'est dans un autre cadre, mais pour ceux qui ont un travail, j'espère quand même que nous avons à cœur de bien faire notre travail, de donner des résultats positifs. De faire de son mieux pour gérer aussi notre travail. C'est un respect pour notre employeur, mais c'est un respect aussi pour Dieu. Et pour Dieu, c'est la même chose. Dieu me donne un don, et la seule chose que j'en fais, c'est... Je le laisse tranquille. parce que peut-être que ça prend un petit peu de temps. Et puis, ça coûte. Je ne parle pas que financièrement. Hein. Et puis peut-être c'est risqué. Et puis il y a ceci, et puis il y a cela. Et au lieu d'en faire une pépite, on en fait une cendre. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. En plus, rappelons-nous, il nous donne la force, il nous donne les moyens, il nous donne tout pour accomplir. Allez, qu'est-ce qu'un ministère équilibré? Vous allez me dire, c'est tout le contraire. Ben oui. Mais pas que. Ce qui va être le plus compliqué va consister à mettre tout cela en ordre afin que cela soit harmonieux. Harmonieux avec sa propre vie, son propre équilibre, et harmonieux au sein de la communauté. Une église, c'est comme une balance. Nous sommes dans un plateau, Dieu est dans l'autre, et nous devons être à l'étal. Pas au-dessus de Dieu, et pas en dessous. Pas assez actif, pas assez engagé, plutôt frileux. On a parlé du zèle aussi ensemble. Hein. Vous vous souvenez, on a partagé une réflexion sur le zèle. Oui, le Seigneur veut que l'on soit zélé, qu'on ait à cœur de faire vivre ce don. J'ai un jardin et j'aime beaucoup voir les fleurs pousser. Mais il faut les entretenir. Et puis, à un certain endroit, quand il n'y en a plus, on met une petite graine ou on met une petite racine. Et puis, on se dit, faut que ça pousse parce que je sais que c'est beau. Et puis, ça met en valeur le reste. Et puis, ça nous réjouit. Voilà. Mais si on met une graine, imaginez, Dieu, c'est un semeur, il met une graine. Qu'est-ce qu'il attend? C'est qu'elle puisse produire quelque chose. Et la graine se réjouit d'elle-même d'être une belle créature. Mais si elle reste sous terre, c'est une belle créature pour qui? Pour personne. Dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, écoutez bien, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science la tempérance à la patience à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Voyez, on a l'impression qu'on assiste, toi qui dans la pâtisserie, les ingrédients pour obtenir le meilleur des desserts, le meilleur des gâteaux, le meilleur des choses, ainsi de suite. C'est un mélange savamment dosé de différentes choses qui doivent être incorporées, c'est ça, je parle bien, c'est ça, incorporées, au bon moment, température, même des fois, et d'une certaine manière. C'est pas, on jette tout dedans, on regarde pour voir ce qui va se passer. Si on n'y met pas la main, il ne se passe rien. Ou on peut aussi tout jeter dedans, mettre la main, et le résultat, c'est rien. Parce qu'on n'a pas utilisé la bonne manière. Parce qu'on ne l'a pas fait avec réflexion. On ne l'a pas fait conduit par l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu mets ça sur mon cœur, je ne sais pas comment je dois faire. Montre-moi. Si on continue de Pierre, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point en aveugle, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, votre gérance. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ah oui, parce qu'il y en a aussi qui se plaignent. Qu'est-ce que c'est compliqué de faire ça ? Alors, on ne va pas dire pour Dieu, mais c'est bien ce qu'on a compris. Ah, puis le temps que ça me prend, tu te rends compte un petit peu ? Alors, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu qu'on fait ça, qu'on dit ça ? Qui est-ce qui parle là ? Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Certes, il y a des choses que l'on sait, mais est-ce qu'on les met en pratique ? Et comment les mettons en pratique ? Est-ce qu'on utilise la bonne recette ? Dans 2 Corinthiens 4, versets 1 à 18, Paul nous donne, on va dire, cette suggestion. Pour terminer la course, hein, la course de la foi. Premièrement, souvenons-nous de la miséricorde de Dieu. Dieu nous a donné nos ministères, nous a donné cette gérance. Nous n'avons pas à prouver notre valeur au travers de notre ministère. Et nos erreurs ne doivent pas non plus nous stopper. Les erreurs sont faites aussi pour nous éclairer. On dit, ah, attention, là, je suis en excès. Donc, il faut rectifier le tir. Nous n'avons pas de place à gagner en tant que responsable, en tant que pasteur, en tant que, je sais pas moi, musicien. Parce que c'est plus une responsabilité qu'un honneur, qu'un gain. Deuxièmement, soyons sincères et honnêtes dans tout ce que nous faisons. Soyons intègres, car l'intégrité produit la puissance dans notre vie, alors que la culpabilité, elle anéantit notre énergie. C'est tout le contraire. Notre réputation doit rester intacte. Notre intégrité inclut la connaissance aussi de la parole de Dieu. Il est important de ne pas la déformer, afin de ne pas induire les autres dans l'erreur ou la confusion. Il vaut mieux se taire plutôt que de donner une mauvaise explication. Ou en tout cas, il faut aller la chercher. Troisièmement, soyons motivés à travailler pour Jésus et non à cause de nos désirs égoïstes. Nous avons besoin d'une juste motivation, d'un équilibre. Parce que notre sujet, c'est l'équilibre. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont commencé, je dirais, en bas de l'échelle. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu teste notre fidélité dans les petites choses avant de nous donner des plus grandes choses à faire. Quatrième point, ne jamais oublier que le chrétien est avant tout un être humain. Nous devons accepter nos limites. Et la voie la plus rapide pour tout détruire, c'est d'essayer d'être Superman. Mais on n'est pas des Superman. Parce que si on était des Superman, Dieu n'aurait pas suscité cette parole qui dit, mais il va nous donner la force. Il n'aurait pas besoin de nous donner la force si nous n'avions pas besoin de cela, si nous étions des super chrétiens. L'humilité, c'est être honnête à propos de nos faiblesses. Ensuite, soyons remplis d'amour pour les autres. Bien oui, aussi, évidemment. L'Église prospère, grandit et survit lorsque l'amour perdure. Lorsqu'on sent cet amour qui est là, qui passe, qui s'entretient, qui se vit. Aimons-nous les uns les autres pour la pérennité du ministère de chacun des autres, pour une bonne gérance. Et puis sixième point, enfin ça, normalement, nous l'avons fait. Hein. Souvenez-vous du message avant de partir en vacances. Profitons de ce temps pour nous ressourcer, nous approcher de Dieu, passer du temps. Accordons-nous du temps pour nous ressourcer intérieurement. Oui, on a besoin d'avoir du temps pour soi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, ni de la fainéantisme, ni du fainéantisme. C'est garder un équilibre. On ne peut pas tout le temps, comme on dit, être au taquet, à courir de partout, à vouloir tout organiser. C'est comme si la pianiste se mettait la pression en disant « Ah, il faut que je connaisse tous les chants par cœur de tous les recueils. » Donc, est-ce que Dieu, sincèrement, lui demande ça? Alors pourquoi se mettrait la pression toute seule? C'est comme si toi, non, voilà, tu disais, voilà, il faut que je fasse les programmes de toute l'année, et puis à la minute près, et puis qui, quoi, comment, où, qui est-ce? À un moment donné, tu vas jeter la feuille par terre, parce que tu en auras marre. Et c'est normal, parce que tu as dépassé les limites. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de nous épuiser à la tâche. Absolument pas. Il nous demande d'être équilibré. Quand on sent que ça commence à être tendu, il faut me dire, chers frères et sœurs, j'ai besoin de souffler. Et en face de vous, celui qui dira, oh, quel fainéant, il n'aura rien compris. Au contraire, il devrait se dire, mon frère, je vais prier pour toi, dis-moi ce que je peux faire pour te soulager. Voilà. Ça, c'est un amour partagé, ça, c'est un équilibre de vie chrétienne. Moi, j'ai connu beaucoup de chrétiens dans mes différentes activités. Ils ne partageaient rien. Ils avaient un truc à faire. Attention, c'était ne pas toucher. C'est exclusif. Ben non, c'est pas ça, quoi. Être gérant d'un don du Seigneur, c'est pas ça. Et puis enfin, dernier point, restons concentrés sur les choses importantes sans se laisser distraire par des troubles passagers. Il faut garder notre regard sur le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est pas je passe la porte, ça y est, j'ai atteint le but. Parfois, il y a un chemin à faire. Quand on est gérant d'une nouvelle société, on ne voit pas les résultats le lendemain. Ça se construit, pas à pas, jour après jour. Il y a besoin d'étapes. Parfois, ça va un peu moins bien, parfois, ça va mieux. Alors, on analyse, on regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut équilibrer. Parfois, il faut savoir ralentir pour mieux avancer. Moi, je travaille avec des commerciaux et parfois, je leur dis, n'en faites pas trop, même si ça vous démange, parce que demain, comment vous allez faire pour gérer la suite? Et si vous ne gérez pas bien la suite, vous allez du mal à terminer. Et si vous avez du mal à terminer, Et vous aurez encore plus de mal à continuer. Il faut travailler dans l'équilibre. L'équilibre. Voilà, une balance. L'Église est une balance. Est-ce qu'elle est bien équilibrée ? Est-ce que votre Église est bien équilibrée ? Déjà, est-ce que ma vie est bien équilibrée ? Est-ce que ma vie est bien équilibrée ? Quels sont mes projets pour cette année ? Pour l'Église ? Qui fait quoi ? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Qui sait faire quoi ? Comment ? Est-ce que je partage ça ? Est-ce que j'ai envie de partager ? Est-ce que je suis capable de dire « Oui, je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. » Prie, demande ce que Dieu attend de toi. Partage. Ce n'est pas une honte de dire « j'ai pas l'impression d'avoir compris ce que le Seigneur voulait pour moi. » On peut prier pour cela. Ou voilà, j'ai vraiment l'impression, je suis vraiment convaincu que le Seigneur veut que je fasse ça, mais je ne sais pas comment faire. Bon, on va prier pour cela. Puis on va demander à Dieu de donner la force et d'éclaircir sa vision. Que le Seigneur bénisse sa parole et je vous dis à très bientôt.